Novak Djokovic s'impose 6-4, 6-3 en 1h39 en finale du Rolex Paris Masters contre Grigor Dimitrov pour décrocher son 40e titre en Masters 1000, son 7e titre à Paris. On a eu un Serbe qui a été chirurgical, qui a su mettre la pression quand il le fallait dans les moments chauds en fin de set pour faire la différence, tout l'inverse de son adversaire, le Bulgare qui lui est passé à côté de l'événement. On sait qu'il n'a plus remporté le moindre trophée sur le circuit depuis les ATP Finals 2017 et on a senti cette pression dans le bras de Grigor Dimitrov qui n'était plus tout à fait lui-même par rapport à ce qu'il nous a montré sur cette semaine parisienne et notamment ses victoires convaincantes contre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Il avait perdu un petit peu de ça, superbe, et on l'a senti vraiment passer à côté de l'événement. D'ailleurs, à la fin de cette finale, il était en pleurs, on a vu Novak Djokovic aller le consoler, un très bon moment. Mais bon, en face de lui, il avait le patron, Novak Djokovic, qui te met une pression telle avec son aura, c'est très compliqué de pouvoir exprimer ton jeu, d'autant plus que Djokovic, sans briller, il arrive à verrouiller, à museler son adversaire. On va revenir sur ce match et de façon plus générale sur cette semaine au Rolex Paris Masters pour tirer un bilan avant les ATP Finals. C'est parti, jingle. Et comme te l'a dit Josh dans son excellente preview, ça va être très compliqué pour Grigor Dimitrov d'inquiéter, de battre Novak Djokovic, parce qu'avant cette finale, au niveau des face-à-face, ça parle d'eux-mêmes, sachant qu'il y avait 11-1 pour le joueur serbe, et sur ces 12 matchs, 7 avaient été disputés au minimum de 7, 4 qui sont allés au 7 décisif, et il y a eu un match en 4-7, c'était à Wimbledon il y a quelques années. Donc une seule fois, le Bulgare a trouvé la parade contre le joueur serbe, c'était dans un contexte particulier, déjà c'était sur terre battue à Madrid, et surtout, depuis, il s'en est passé des choses, parce que Novak Djokovic, il a glané 18 titres en majeur. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur cette finale, tant Novak Djokovic a muselé son adversaire avec son aura, sa pression, a su faire la différence dans les moments qui comptent, là où Grigor Dimitrov est passé à côté du rendez-vous. Finalement, il n'a pas su exprimer son jeu, il n'a pas pu exprimer son jeu et il s'est montré un petit peu trop passif dans l'échange en commettant énormément de fautes et surtout son service qui a peiné dans ce match. Si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, on a un Novak Djokovic qui a breaké 3 fois son adversaire, une fois dans le premier set à 3 partout et dans le deuxième set, il a fait un premier break à 2-2 puis à 5-3 pour décrocher son 7e titre au Rolex Paris Masters. Comme je te le disais, Grigor Dimitrov qui a quand même commis 19 fautes directes rien que dans le premier set face à un Djokovic qui a commencé tranquillement, de façon assez timorée. Il n'a pas forcément mis une pression folle, mais dès que ça comptait sur la fin de set, on a senti vraiment le joker faire la différence, mettre un petit peu le doute dans son adversaire face à un Grigor Dimitrov qui a peiné au service parce que c'était 51% de première balle sur cette finale. Et je rappelle, contre Stefanos Tsitsipas, c'était 67% de première balle et 69% contre Hurkacz et Medvedev. Donc vraiment, il n'a pas su avoir de points gratuits sur ses engagements. Tout l'inverse de Novak Djokovic, on le sait, il a été dérangé un petit peu par des maux d'estomac, une gastro en début de tournoi et il a été vraiment porté par son service, parce que si je reprends un petit peu les statistiques de ses services par rapport à son match contre Grigspur, ça a commencé avec 62% de première balle, 77% de réussite derrière. Ensuite, contre Holger Rune, peut-être son moins bon pourcentage de première balle, 52% et 83% de réussite derrière. Contre Rublev, 67% de première balle, 73% de réussite derrière. Et contre Dimitrov, 67% de première balle, 80% de réussite derrière. Donc vraiment de très bonnes statistiques qui ont su le porter tout au long de cette semaine face à un Novak Djokovic qui des fois est apparu un petit peu blême dans les échanges. On voyait que du fond, il manquait quelques petits pas d'ajustement, qu'il allait un peu à la faute. Mais avec son service, ses points gratuits, on sait que sur une surface comme celle du Rolex Paris Masters en indoor, il peut avoir des points gratuits avec ses deuxièmes également très slicés qui fait mal à ses adversaires. Et c'est vraiment son service qu'il a porté tout au long de la semaine. Goran Ivanišević, on sait qu'ils ont bossé tous les deux sur son service qui est devenu vraiment une de ses armes maintenant sur dur, sur gazon. C'est un peu plus neutralisé. Ça lui a quand même permis d'avoir pas mal de points gratuits. Et ce qui est dommage, c'est que Grigor Dimitrov, cette semaine, il a quand même retrouvé de très bonnes sensations. On avait eu des passages de son niveau de 2017, notamment côté revers, où il allait beaucoup plus vers l'attaque. Il cassait les diagonales, il changeait de direction. Il était beaucoup plus offensif avec son revers, où habituellement, il a tendance un petit peu à recouvrir ou à slicer, à s'entêter un petit peu dans cette diagonale revers. Là, c'était vraiment mieux avec un très bon service. Et ça a disparu en finale, où il passe vraiment à côté de son rendez-vous. Je te rappelle qu'il n'a plus remporté le moindre titre sur le circuit depuis les ATP Finals 2017, donc ça commence vraiment à remonter, et ça montre un petit peu un joueur qui n'a pas forcément l'habitude de triompher chaque semaine, parce que là, 6 ans sans titre, quand même, c'est une sacrée disette pour un joueur quand même talentueux comme Grigor Dimitrov, et ce manque d'expérience lui a fait défaut sur cette finale, tout l'inverse de Novak Djokovic, qui a fait encore une sacrée performance, pour plusieurs raisons, parce qu'il était dérangé au niveau de l'estomac, il enchaîne quand même 3 gros combats de plus de 2h30 contre Grigspur, Rune, ainsi que Rublev. Derrière, il a su récupérer, il a su remettre un coup en finale contre Grigor Dimitrov. Là, il a 36 ans, on est en novembre, donc en fin de saison, quand tout le monde est sur les rotules, lui, il arrive encore à être frais, il revient d'une longue pause après l'US Open, et si on met tout ça bout à bout avec son quatrième petit Chelem, où il prend l'Open d'Australie, Roland Garros, ainsi que l'US Open, bah, c'est quand même assez impressionnant ce que fait Novak Djokovic. Et on voit vraiment une gestion parfaite de son calendrier. Il peut se le permettre par son expérience, par son âge, mais vraiment, il sait atteindre ses pics de forme quand il le faut. Après, on a eu un Novak Djokovic qui n'a pas forcément déployé son meilleur niveau sur cette semaine. Contre Rublev, il était peut-être à 50%, et pourtant, il s'impose contre un membre solide du top 10, c'est dire. Et c'est vrai que c'est cette constante qu'on a chez Novak Djokovic qui est capable de mettre cette pression sur ses adversaires. Et le point de vue mental de comment il arrive à battre ses adversaires vraiment rien que dans les vestiaires en rentrant sur le terrain, et que c'est compliqué pour des joueurs comme Rublev de dire ben j'ai un moyen de battre Novak Djokovic, même s'il a un petit peu diminué, etc. Ça cafouille beaucoup trop, et au final ben, c'est le Serbe qui va mettre le dernier point de la victoire. D'autant plus que dans les moments chauds, en fin de set, il arrive vraiment à faire la différence, à mettre un coup d'accélérateur. Généralement, il commence tranquillement, il va pas forcément chercher à faire la différence. Il passe avec son service où ça lui donne des points gratuits. Il peut voilà aller jusqu'à 4-4, 5-4, etc. Et derrière, il va mettre le petit coup d'accélérateur quand il le faut, soit c'est au tie-break, où généralement il est ultra réaliste. Bon, ça a été un petit peu mauvais contre Holger Rune, mais sinon en fin de set, où il va vraiment faire la différence pour breaker. Avant de revenir sur l'impact statistique de cette victoire, parce qu'encore une fois, ben, Djokovic défie tous les chiffres, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. J'imagine que tu connais la bourse, tu investis dans des entreprises auxquelles tu crois en achetant des actions. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu ne vas pas investir dans des entreprises, mais dans des talents. Donc là, on va parler du tennis, bien évidemment, même si tu as plusieurs sports qui sont représentés. Tu vas investir dans des talents en achetant un ROI, donc c'est l'équivalent d'une action. En moyenne, le ROI de départ est à 2€. Après, en fonction du succès du joueur, ça peut aller un petit peu plus haut. Et en fonction des performances de ce joueur sur le terrain, mais également en dehors du terrain, sur les réseaux sociaux, il y a un algorithme qui va te calculer le rendement un petit peu du joueur, et chaque mois tu vas avoir des retombées économiques dans ton portefeuille par rapport à ton investissement initial. Donc ça, c'est vachement intéressant, c'est novateur, c'est un moyen d'être embarqué dans l'aventure d'un joueur, et en fonction de ses performances tu vas avoir des retombées indirectes dans ton portefeuille qui vont te faire fructifier ton investissement initial. Donc t'as plusieurs sports comme je te le disais qui sont représentés. Au niveau du tennis, tu as des profils comme Caro Garcia, Hugo Gaston, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, et je t'invite à aller voir tous les autres sports parce que ça, c'est vraiment intéressant pour diversifier ton portefeuille. Je te mets un lien d'affiliation si l'expérience t'intéresse, pour avoir des revenus passifs. Une fois que tu passes par ce lien et dès que tu as fait ta première transaction, bah, tu vas avoir accès à un bonus. Ce bonus, ça peut être un talent que tu vas gagner, une somme d'argent ou des cadeaux comme des AirPods Pro. Bien évidemment, c'est une activité d'investissement. Donc, qui dit investissement dit activité responsable. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Et en parlant justement de chiffres, bah, Novak Djokovic a brisé encore pas mal de chiffres parce que c'est son 40e titre en Masters 1000 sur 58 finales disputées, 97e titre en carrière, 7e titre à Paris. C'est son meilleur Masters 1000, sachant que derrière, c'est 6 titres à Miami et Rome. Et c'est sa 9e finale qu'il a fait ici. Il a été défait seulement 2 fois par Khachanov en 2018 et par Holger Rune en 2022. C'est son 2e doublé parisien entre Roland Garros, Bercy après 2021. Un 2e titre en Masters 1000 après Cincinnati. Il faut remonter à 2016 pour voir Djokovic triompher plus de 2 fois dans l'année en Masters 1000. Il visera un 7e titre aux ATP Finals pour dépasser Roger Federer et aura besoin d'une seule victoire pour être assuré de conserver sa première place mondiale. Sinon, bah, Alcaraz pourrait lui chipper. Mais bon, il y a de fortes chances quand même que Djokovic gagne au moins un match à Turin. Ce n'est pas forcément le cas de Carlos Alcaraz qui devrait faire un perfect. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il va faire le doublé parce que c'est quelque chose qu'il n'a su faire que 3 fois en 2013, 2014 et 2015. Depuis, 3 titres aux ATP Finals, mais aucun doublé Rolex Paris Masters ATP Finals. Il en est à 18 victoires consécutives depuis sa désillusion en finale contre Carlos Alcaraz à Wimbledon. Et surtout, ben, son objectif, c'est d'aller chercher ses 400 semaines en tant que numéro 1 mondial. Il a toutes les cartes en main pour y aller, en tout cas. Un mot pour le perdant quand même, Grigor Dimitrov, qui à 32 ans se fait 2 victoires contre des membres du top 10. C'est la première fois qu'il bat 2 membres du top 10 dans la même semaine depuis les ATP Finals 2017, qui, comme je te le disais, est son dernier titre en carrière. Sa 2e finale Masters 1000 après celle gagnée à Cincinnati 2017 contre Nick Kyrgios. En 2023, c'est 64 matchs pour 22 défaites et 42 victoires. Dans ces 22 défaites, il y en a eu seulement 5 contre des joueurs moins bien classés que lui. C'était contre Bublik, Kubler, Laichka, Jarry ainsi que Evans. Donc on a vraiment un joueur qui est ultra régulier, qui a du mal contre les joueurs mieux classés que lui, qui arrive à lui poser des problèmes, mais sinon il ne déçoit pas du tout. Grigor Dimitrov, seulement 5 contre-performances. Franchement, rends-toi bien compte, c'est quand même ultra solide à 32 ans, ce regain de forme où les briques commencent à se mettre petit à petit en place par rapport à ses changements de coach dans son équipe, etc. Et on a retrouvé vraiment un excellent Grigor Dimitrov en 2023. Et surtout, il devrait finir l'année 14e mondial, là où il avait commencé 28e. Un mot des lauréats en double, Gonzalez et Roger Vasselin. Edouard qui devient le 7ème français à s'imposer en double au Rolex Paris Masters. Donc ça franchement chapeau, sachant qu'avant il s'était imposé à Bâle. Donc le Mexicain et le Français qui font de très très bonnes performances sur cette fin de saison, qui reviennent très bien. À voir en 2024 si Roger Vasselin va s'associer ou non à Nicolas Mahut en double. Au fait, nous c'est Games & Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si ce genre d'analyse t'intéresse, bah justement c'est un petit peu le cœur, l'ADN de notre chaîne YouTube, d'essayer de te faire comprendre un petit peu mieux cette actualité de la petite balle jaune, de décrypter le tennis. Donc je t'invite à prendre ta raquette et faire ton meilleur Djokovic match pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, bah tu peux le liker parce que nous derrière ça nous permet de savoir justement ce que tu préfères pour qu'on puisse récidiver ce genre de pastille. Si on doit tirer un bilan de ce dernier Masters 1000 de l'année, bah déjà il faut savoir qu'on a eu un très bon niveau de jeu avec de superbes combats comme le Paul Gasquet, le Dimitrov Medvedev, le Humbert Zverev, le Dimitrov Tsitsipas. Il y a eu vraiment de très très jolis matchs. Après, de l'autre côté, on a quand même eu des désillusions qui peuvent être logiques ou légitimes. En tout cas, je pense à Alcaraz qui est vraiment cuit sur les rotules en cette fin de saison, qui n'a pas vraiment coupé depuis son sacre à Wimbledon et qui enchaîne défaite sur défaite. Ça va être très compliqué pour lui les ATP Finals. Medvedev qui avait une finale à Vienne contre Yannick Sinner, un gros combat qui derrière n'a pas forcément eu le temps de récupérer et donc a déçu de façon voilà assez logique, on peut dire. Pareil pour Arthur Fils qui on avait de grosses attentes, personnellement je le voyais en quart, mais si on prend un peu de hauteur par rapport à ses résultats de cette saison, son ascension folle et la pression qu'il a dû avoir dans ce rendez-vous français, ça peut un petit peu s'expliquer, même si perdre en 2-7 contre Altmaier sans montrer de gros signes de rébellion, c'est un petit peu dommage, mais on sent beaucoup de joueurs qui manquent de jus, hein. C'est toujours le cas au Rolex Paris Masters, la saison est longue, chaque semaine on joue et forcément il y a des regains de forme, je pense à Stefanos Tsitsipas qui lui était aux abonnés absents depuis quelques temps, et il y en a d'autres qui sont toujours là et qui flanchent un petit peu avant la ligne d'arrivée. Ça a été le cas bien évidemment de certains joueurs, mais c'est excusable pour moi par rapport au fait que la saison soit éreintante. Par contre, ce qui l'est moins, c'est vraiment la programmation qui est catastrophique, ce Masters 1000 qui fait quand même polémique et qui à mon sens n'est pas forcément au niveau des autres Masters 1000 en termes d'infrastructure. Voilà, la programmation avec le forfait derrière du Yannick Sinner, finir à 2h30, le remettre à midi et quelques, c'est inconcevable. Enfin, on sait pas ce qui se passe dans la tête des organisateurs et c'est vrai qu'il fait un petit peu tâche par rapport aux autres Masters 1000, aux autres événements. Après on peut rajouter les polémiques avec le public qui vont venir siffler Djokovic qui est insupportable avec 2-3 qui font un petit peu trop de bruit pour rien, mais c'est vrai que tout ça vient entacher un petit peu l'image de ce Masters 1000. On se rappelle l'ambiance qu'il y avait par exemple pour le Alcaraz Gaston où il y avait un public assez détestable quand même, assez pesant, et c'est vrai qu'on comprend pourquoi ce Masters 1000 est critiqué et peut potentiellement être sur la sellette. En tout cas ça pourrait pas être pire que les conditions actuelles à Cancun pour le Masters féminin. D'ailleurs ça sera notre prochaine halte, le Masters masculin qui arrive dans une semaine à Turin où on espère vraiment de belles poules avec pourquoi pas une poule Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Rune et une poule Alcaraz, Sinner, Rublev, Zverev, où ça ferait des beaux match-up je trouve, des bonnes oppositions et ça pourrait être intéressant. Après on verra ce que donne le tirage au sort. Quoi qu'il arrive, on sera là jeudi pour débriefer un petit peu de ce tirage au sort. Mais avant ça, ce mardi à 18h, tu auras une vidéo sur Novak Djokovic où on va essayer de te donner un petit peu la recette, les clés pour vaincre le Serbe qui tourmente un petit peu le circuit en cette saison 2023 et depuis quelques années déjà. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire, t'actives la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. Nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.